Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, bienvenue sur les ondes de CKIA, c'est l'émission Puissance Maximale, votre émission de magazine ludique sur les ondes du 88.3. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, il s'agit de Sam Murdoch. Sam Murdoch qui est le guitariste et le vocals de Lesbowhoven, qui va nous parler tout à l'heure de musique électronique associée aux jeux vidéo, ou en tout cas musique électronique dans le sens très très large du terme, puisqu'on ne parlera pas uniquement de musique 8 bits ou des petites musiques du type Nintendo, mais on va aussi aller un petit peu effleurer tous les types différents de musique à travers les jeux vidéo. Ensuite, évidemment, nous avons notre chroniqueuse, je dirais même, préférée, puisqu'il s'agit de Sylvie Tapp, celle qui va nous parler de toute l'actualité des jeux vidéo sur PC. Et en troisième partie d'émission, nous aurons un spécial grandeur nature parce que bientôt la saison reprend et puis on va tous se retrouver à l'extérieur à essayer de chasser du troll. Comment s'habiller? Comment pouvoir le mieux possible s'armer à travers toute cette jungle de différents types de produits qui sont proposés sur le marché? Eh bien, nous aurons Michel Oyelet-Zola pour nous en parler, ce qui fait que ça sera en deuxième partie d'émission. Mais avant tout ça, et puis parce qu'on adore commencer l'émission dans de bonnes conditions, on va parler de l'actualité ludique, l'actualité de la semaine, avec notre très cher ami Mathieu Place. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
De oui, prise 2.
Voilà. Voilà apparu. On va parler beaucoup de jeux vidéo cette semaine. Dans les actualités des jeux vidéo, on a d'abord et encore toujours la grande suprématie des jeux vidéo aux questions monétaires dans le domaine des médias américains. Pour vous arriver avec quelques statistiques, par exemple, l'année dernière, en 8 semaines, 2 millions de chansons ont été downloadées pour les jeux de Rock Band et de Guitar Hero. Alors, vous savez que vous pouvez downloader des chansons pour compléter la collection qu'il y a sur vos consoles. Et puis, c'est assez fascinant de voir que, justement, alors que la distribution de musique de manière classique par les distributeurs qui sont là depuis à peu près 50-100 ans, alors que pour eux, ça va plutôt mal. Ils ont du mal à percer et puis à fonctionner avec la nouvelle donne du download par Internet. Eh bien, les consoles réussissent à faire en sorte que les chansons qu'ils offrent au public soient downloadées de manière fulgurante. Alors, c'est le cas pour la Xbox 360 qui a été vraiment très populaire au niveau des downloads et de la PlayStation 3. Alors, je vais vous faire une devinette. Quel groupe pensez-vous qui est le plus downloadé en matière de chansons? Alors, c'est toute une question, là, mais faites un guess.
Moi j'irais sur Rage Against the Machine.
En fait, c'est peut-être metal, oui, on s'en va vers le metal, mais metal des années 80.
AC/DC,
non, c'est Metallica. Alors, ils étaient proches, là, c'était effectivement du metal, mais Metallica, c'est vraiment le plus populaire au niveau des downloads de chansons de Guitar Hero et Rock Band.
Mais dis-moi, finalement, ça serait sûrement un nouveau moyen pour tous les groupes de faire de la promotion pour leur disque ou leur label.
Oui, effectivement, mais c'est peut-être un nouveau filon à exploiter pour tout ce qui est distribution de musique. Là, on a des groupes qui sont très populaires, mais peut-être que d'autres groupes un petit peu plus émergents pourraient profiter de cette manne-là pour pouvoir faire connaître leurs chansons. Et puis, ce serait une façon tout à fait originale de faire connaître de nouveaux groupes.
Tout à fait. En fait, c'est déjà le cas avec Guitar Hero, si je me souviens bien. Il y a tout un panel de chansons qui sont beaucoup moins connues avec des artistes qui sont en train de percer et qui ont réussi à se placer sur le jeu, ce qui fait que ça leur permet vraiment d'avoir une très très belle visibilité.
Ben oui.
Peut-être même une belle position pour des groupes comme Les Brouwerven. Qu'est-ce que tu en penses, Marc
Mulder?
Bonjour Marc. Sam, excuse-moi, Sam.
Tu peux m'appeler Marc. On est lundi.
Pourquoi pas?
Tout à fait, mais ça risque que c'est souvent des questions de compagnie. Là. On parle, c'est des licences qui sont données à des majors. Donc, les artistes qui sont émergents là-dessus, c'est comme les artistes qui sont assez bien placés dans l'industrie musicale.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas les artistes qui sont cherchés dans les petits villages, les petites villes.
Là. Ils sont peut-être émergents, mais ils sont sur la même étiquette de disque Metallica à ce moment-là.
Non, tout à fait. Ça reste une question d'industrie, les chansons qui se retrouvent là-dessus, sauf qu'il y a une possibilité de créer ses propres chansons dans Guitar Hero. Donc, on pourrait, on pourrait customiser, on pourrait... nos propres chansons à l'intérieur du jeu et les intégrer.
Ou si on avait peut-être un hacker qui serait assez créatif pour créer un moyen de downloader des chansons sur Guitar Hero, des chansons qui ne sont pas licenciées par la compagnie en tant que telle. Là. Peut-être qu'on pourrait déjouer justement le système et puis placer d'autres chansons que celles qui sont proposées. Là.
Ça pourrait être la même chose, par exemple, pour des jeux comme SingStar, où on est obligé de chanter sur une forme de karaoké, finalement, mais associé avec des groupes qui seraient un petit peu plus émergents ou qui seraient même québécois, parce qu'on n'en retrouve pas vraiment des groupes québécois sur ce type-là de jeu, étant donné que c'est tous des jeux qui viennent des États-Unis.
Ah oui, puis ça fonctionnerait. Hein? Je me souviens que dans la folie des karaokés, dans les années 90, quand ça a apparu, il y avait toute une collection de disques de karaokés, de succès québécois, et puis bon, ça fait toute une fureur dans les parties de famille, etc. Bon, là, on parle d'un autre public, là, mais il y a moyen d'avoir une version québécoise, peut-être.
Dis-moi, Mathieu, bon. Comme autre nouvelle de l'année... De la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce merveilleux monde du monde ludique?
Alors, saviez-vous qu'il y avait une grève des scripteurs à Hollywood, aux États-Unis?
Oui, okay.
Ça marche. Okay. Eh bien, selon un sondage, 94% des Américains savent qu'il y a une grève. Et puis, ils ont fait un sondage sur le changement des habitudes des Américains par rapport à la grève des scripteurs. Et puis, ils se sont rendus compte que non seulement les consommateurs regardaient plus de DVD, mais ils jouaient à plus de jeux vidéo. Alors, il y en a beaucoup qui s'inquiètent dans l'industrie de vidéo, de la télévision et puis du cinéma, parce que là, ils se rendent compte que peu à peu, ils se font gratter des parts de marché par les jeux vidéo. Et puis, on se souvient que dans certaines industries, par exemple, le transport en commun à Québec, quand il y a eu une grève, il y a eu une très grande grève de 9 mois, je pense que c'était au début des années 90, eh bien, la compagnie, le RTC, s'est jamais vraiment rétabli de ça. Ça a vraiment nuit à son image. Et puis, il y en a qui disent que ça a vraiment hypothéqué le futur de la compagnie. Alors, on peut se dire que peut-être que la grève des scripteurs va faire en sorte que les gens vont se déplacer de manière permanente vers d'autres médias, vers d'autres moyens de s'amuser. Là. Alors, par exemple, les jeux vidéo. Troisième nouvelle que j'ai à vous communiquer. Eh bien, encore une fois, les producteurs de jeux vidéo ont fait une fortune en décembre et puis leurs ventes de jeux ont bondi de 28 %. Alors, évidemment, 28 %, c'est quand même quelque chose.
28 %, mais c'est extraordinaire, en fait.
Moi, je trouve ça très impressionnant. Alors, pour vous donner d'autres chiffres, en décembre, il y a eu des ventes pour 4,82 milliards de dollars en jeux vidéo et en consoles qui ont été
faites. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui pensaient encore que les jeux vidéo, c'est quelque chose de très mineur dans le monde.
Marginal,
c'est vraiment, je veux dire, c'est la preuve vivante que c'est un énorme marché.
Alors, si vous avez fait des investissements du côté de Microsoft, Nintendo, etc., gardez vos billes dans ces compagnies-là parce que c'est prêt à rester des valeurs sûres. Et puis, les chiffres que je vous donne, là, c'est seulement aux États-Unis. Là. On ne parle pas du marché japonais ni européen, là, qui est quand même assez majeur. Dans toute l'année 2007, 18 milliards de dollars ont été vendus. Et puis, le meilleur vendeur, est-ce que vous êtes capable de le deviner? Une petite devinette.
Il me semble que ça fait 4 fois qu'on se pose la question.
Allô, 3. Halo 3 qui a été le meilleur vendeur dans la dernière année. Oui, effectivement. Bon, c'est ça. Il considère que peut-être cette année, ça va baisser un petit peu les ventes parce que l'année dernière, il y avait encore la nouveauté des nouvelles consoles PlayStation 3 et Xbox qui faisait en sorte que les gens achetaient la console qui coûte quand même très cher. Le Wii aussi.
Parce que le Xbox 360 est sorti un an plus tôt.
Ah oui, OK. Bon, oui. C'est ça. La Wii aussi qui a été très populaire. Et puis là, évidemment, les gens achètent la console qui est quand même un bon prix, qui fait augmenter les ventes générales. Et aussi, ils achètent quelques jeux pour compléter leur première collection, là, si on veut. Bon, j'ai quelques jeux à vous donner en sortie bientôt. Est-ce que j'ai le temps de faire
mais
ça?
Bien oui, sûr, allons-y. Vas-y, laisse-toi aller. Donne-nous ces sorties-là. D'ailleurs, n'oublie pas qu'aussi, il va falloir annoncer la sortie prochaine du fanzine, puissance maximale.
Ben oui, ce serait dû sûrement d'ici la fin janvier, là, mais ça devrait pouvoir se faire d'ici
Si vous aviez le bonheur d'avoir un écran en même temps associé à votre radio préférée, vous pourriez voir que la page couverture, eh bien, il s'agit d'une très jeune, jolie, jeune demoiselle qui ressemble énormément à une super héros. Puis je sais que Sylvie n'est pas tout à fait d'accord avec le concept.
C'est traditionnel, c'est pas stéréotypé, c'est traditionnel.
Puis puissance maximale, pour expliquer un petit peu, c'est un fanzine aussi, ce n'est pas uniquement une émission de radio. Et puis le fanzine sort chaque mois et nous avons un nouveau rédacteur en chef. Il s'agit de Mathieu Place qui est ici présent et qui va pouvoir nous parler un petit peu
votre
du contenu.
Votre cher serviteur, oui. En fait, le fanzine, on a un thème, c'est les super-héros. Alors on va parler des super-héros, question jeu de rôle. On a un jeu qui s'appelle Microbe. En fait, c'est pas tout à fait super-héros, mais c'est un jeu très intéressant qui consiste à défendre un corps humain de l'invasion des microbes. Ensuite de ça, vous avez le célèbre Sébastien qui fait un éditorial tout à fait délirant. Ensuite de ça, est-ce que j'ai oublié autre chose? Vous avez la suite de l'histoire qui suit son cours depuis le début de Puissance maximale, du fanzine.
Et tout ça disponible en fin de semaine, samedi prochain, puis évidemment dans tous les lieux de distribution de la région de Québec, c'est-à-dire dans tous les bons magasins qui se valent, c'est-à-dire la librairie Donjon, Dream City, la boutique L'Imaginaire, Schizo, Jeux Limités Québec, etc., etc. Toutes les bons jeux spécialisés, toutes les boutiques de jeux spécialisés de la région de Québec, ainsi que un petit peu partout au Québec.
Au Québec, oui.
Et dépêchez-vous, on se les arrache.
Oui. Exact, exact, c'est exact.
Ça part quand même assez vite, là. On va essayer d'en imprimer de plus en plus en grand nombre, là, mais ça part assez vite, effectivement.
Est-ce que très rapidement, tu nous fais justement ton listing des nouvelles sorties?
OK, quelques sorties ce mois-ci et le mois prochain. On a No More Heroes sur la Wii, qui s'agit d'un tueur en série avec un katana, un beam katana. Alors, c'est pas un lightsaber comme avec Star Wars, mais c'est un katana illuminant. Et puis, ça consiste à tuer le plus d'ennemis possible pour devenir le meilleur tueur du monde. Alors, des belles valeurs en perspective. C'est ça. Alors, continuons dans les jeux du même genre. On a Burnout Paradise qui sort sur Xbox 360, la PlayStation 3. C'est le 22 janvier prochain. En fait, c'est un jeu de course où il s'agit de faire le plus de dommages possible là, aux autres véhicules qui sont tout autour. Alors, ça promet d'être assez violent et on nous dit que c'est très réaliste. Alors, c'est fantastique.
Encore une fois, des heures de plaisir.
Des heures de plaisir. Alors, si vous avez besoin de relaxation, je pense que ça, c'est parfait pour ça. D'autres jeux que vous allez avoir dans le prochain mois, Devil May Cry 4, Super Smash Brothers Brawl le 9 mars et enfin, Lost Odyssey le 12 février prochain.
Et merci beaucoup, Mathieu Place. Tu restes avec nous, évidemment, pour cette table ronde qu'on va faire dans quelques minutes. On reçoit Sam Murdoch qui est déjà avec nous. Et puis, pour l'annoncer, puis pour le présenter, on va tout de suite passer une chanson des Les Brouven. Il s'agit de...
The Arcade.
The Arcade.
Wow. We'll be right back.
j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
Et oui, merci Isaac pour ce petit moment très délicat en compagnie de justement Maximal Sumo, qui était un ancien jeu du fanzine Puissance Maximale. Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA. Et puis, nous sommes en présence de Sam Murdoch. Sam Murdoch, dont on vient de dire qu'il était non seulement le guitariste, mais aussi le vocals de Les Brouven.
Entre autres, oui.
Entre autres. Bonjour Sam, ça va bien?
Très bien.
Oui.
Je suis confortable. Je me suis assis exactement ici pendant 3 ans. J'animais une émission ici à Sequoia, puis j'avais le même micro, la même chaise.
Une émission sur la musique, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça?
Qui s'appelait L'écho des sous-sols, donc pendant 4 ans ici à Sequoia.
Donc tu es un grand habitué de la place.
Je connais la station, je connais très bien le studio.
C'est vraiment parfait. Puis aujourd'hui, en fait, tu vas nous parler non seulement de Les Brouven et de ton label. Tu as un label, c'est ça?
Oui, qui s'appelle P572.
P572, tu vas nous parler de ton label, mais aussi tu vas nous parler, en lien évidemment avec les jeux vidéo, de la musique, de ce qui s'est fait dans la musique à travers le temps, et en particulier peut-être du phénomène des musiques 8 bits.
Tout à fait, parce qu'il est arrivé, en plus, il y a un lien à faire, parce que Les Brouven, nouveau disque qui paraît en avril, donc la pièce qu'on vient d'entendre s'appelle The Arcade, l'album s'appelle Encore la mort, une espèce d'apologie sur la mort, donc puis une chanson qui parle de la mort des arcades dans les années 90, quelque chose qui est plus obscur un peu. Donc, puis je pense que c'est la première fois que j'en parle à la radio, mais on a entendu la pièce. Puis une fois que les paroles, il y a quelques références et tout là, sur le milieu des arcades des années 90.
C'est vrai, ça s'est fait tout doucement, mais effectivement, ça a disparu. Autant c'était très populaire dans les années 80, début des années 80, c'était un lieu de socialisation tout à fait populaire. Ça a disparu dans les années 90. C'est dû à quoi, ça? Est-ce que tu as une théorie là-dessus?
Il y a certains désintérêts. Il y a le coût de produire un arcade.
OK. Ouais.
Il y a les consoles maison maintenant qui dépassent le graphiquement. Puis,
OK, ça valait plus vraiment la peine d'aller
donc,
à l'arcade.
Ce qui a redonné un souffle à l'arcade dans les années 90, c'est après les jeux de combat, après les jeux de fusil, c'était les jeux musicaux à la Dance Dance Revolution et tout.
Oui, c'est
tout
vrai.
Ce qui est arrivé du Japon. Mais présentement, non, l'arcade sur Saint-Jean, ils vendent maintenant du sucre à la crème.
Oui.
C'est rendu à la Récréatec.
On entend justement... Si on s'ennuie, on ne sait pas trop. Là,
on parlait de musique 8-bit. Ce qu'on entend présentement derrière, c'est... Une des pièces qui me rappelle ma jeunesse, c'est l'avant-dernière pièce de Mega Man 2.
Ah oui, oui, oui. Dans le...
Dr. Willy.
Oui, dans le château de Dr. Willy, oui.
Tout à fait.
Effectivement, oui, oui.
Et en effet, hein, c'est vraiment le charme des musiques 8-bit, là, c'est que ça peut être tout à fait insupportable à écouter pour quelqu'un qui n'en a jamais écouté, mais pour celui qui a passé des heures et des heures devant ce genre de jeu, c'est automatiquement quelque chose qui fait référence
à quelque chose. Il y a la nostalgie qui est derrière ça, sauf que les mélodies sont indéniables de toute façon, parce qu'au départ, la musique 8-bit sur Nintendo, il y avait 4 channels de son seulement. Donc, t'as un noise qu'on entend derrière, qui fait un peu la batterie, la basse, puis 2 triangles, donc qui sont les 2 leads. Donc, c'est des mélodies qui sont extrêmement rapides tout le temps. Puis, quand on joue à un jeu vidéo, puis un son, là, on écoute Megaman, quand Megaman saute, quand Megaman tire, quand Megaman tombe dans un trou. Donc, il y a un des 4 channels de son qui est coupé.
Pour les effets spéciaux.
Pour les effets spéciaux.
Parce,
donc,
parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, les moyens étaient vraiment très limités, c'est ça?
Non, côté son, c'était limité. Puis maintenant, c'est une espèce d'exercice de style. Les gens reviennent à ça, un, parce que c'est des sons qui rappellent les années 80, qui sont la nostalgie. Mm-hmm. Puis aussi parce que... On est limité, mais on peut créer quelque chose d'exceptionnel. La pièce suivante, si tu mets la prochaine pièce, qui est Mega Man 2, encore la même pièce... qui a été refaite par un DJ d'Halifax qui s'appelle DJ Ness.
Donc, oui, un petit surplus, un petit beat en plus. Là. Ouais,
c'est donc, très léger. Hein,
non, bon, on l'entend, c'est l'intro, mais là, il embarque un beat hip-hop un peu par-dessus. Hein.
Est-ce que très rapidement, pour que les auditeurs comprennent de quoi on parle, en fait, c'est de la musique qui est faite à partir de petits chips qui sont utilisés dans les vieux ordinateurs du style Commodore 64 ou même la Nintendo, la Game Boy.
Oui, ben les principaux, on parle de musique 8-bit, c'est surtout Game Boy, parce qu'il y a des sons assez particuliers qui étaient là. Mais ce qui est drôle, c'est que toute la musique des années 80 et 90 était limitée, le Genesis était limité dans son son, le Super Nintendo aussi, sauf que chacun avait des processeurs différents, puis donc un son particulier, dont on entend bon, le beat qui est un peu plus hip-hop.
Ah, c'est intéressant. Ouais.
Qui est mixé par-dessus ça, DJ Ness, qui est DJ pour le groupe rap de très en vue d'Halifax, qui s'appelle The Sound and the Fury. Donc, qui avait sa passion pour le Nintendo aussi. Mais c'est ce qui arrive. Mais il y a un côté... Puis c'est musique, jeux vidéo, mais... tu dis c'est moins accessible parce que c'est la musique des années 80, mais... qu'est-ce qu'on a ici? La prochaine pièce? Castlevania, le premier...
Castlevania.
Ah, que de souvenirs.
Castlevania, le premier tableau. Castlevania, 88.
Oui, je l'ai identifié tout de suite. Hein.
Encore une fois remixé par DJ Ness.
Mais dis-moi, il fallait quand même avoir beaucoup de génie pour faire des tunes avec très peu de choses. Moi, c'est un peu le leitmotiv pour moi, c'est de me dire que finalement, à l'époque, on était limité dans ce qu'on avait, mais on était capable quand même d'aller chercher quelque chose qui accroche au niveau de l'audition. Et puis, tout en ayant quand même un jeu qui se tienne.
Ça fait, il y a quelques génies dans la musique, mais encore là, on pourrait être limité dans le rock avec une basse, une guitare, une batterie, on pourrait être limité, mais il y a des possibilités infinies. Puis il y a la musique qui est très très mauvaise musique qui ont été faites au Nintendo aussi.
Oui, oui.
Il y a quelques jeux qui partent, Ghostbusters, Blade of Steel, des jeux qui partent là, de films ou des jeux de sport qui avaient de la musique assez moyenne à l'époque aussi. Hein.
Mm-hmm. Et puis dis-moi, ce mouvement-là, est-ce qu'il s'est... il me semble qu'il y a quand même eu un renouveau de ce mouvement-là, parce qu'on est dans les années 80 là, pour les vieux jeux de ce style-là, mais à peu près dans la fin des années 90, on a retrouvé des groupes qui carrément se voulaient être des compositeurs de ce type-là de musique 8 bits.
Oui, ça fait. Ben, là, ce qu'on écoute présentement, on revisite la musique 8 bits, donc c'est des remixes. Mais il y a des groupes rock qui ont repris en formule rock des chansons des années 80 comme ça. Puis, et aussi, comme tu parles de musique originale, dont un de mes préférés de Montréal, Matt Fuzz, qui fait des chansons un peu...
Tout à fait. En fait, c'est vraiment tout un nouveau microcosme. C'est vraiment des nouveaux groupes avec des labels qui leur appartiennent.
Puis avec l'Internet, c'est ce qui est arrivé avec l'Internet. Donc, qui a un peu remis ça. Il y a des sites et des sites de remix de chansons. Castlevania, Mega Man, c'est peut-être les trucs qui sont les plus remixés.
Si je me souviens bien, il me semble aussi que ça a été on lui a posé le titre de nouveau punk. Est-ce que c'est possible ça? Il me semble que c'est tout simplement le bassiste de.
Ben, c'est peut-être le côté do it yourself. C'est-à-dire qu'on prend les moyens du bar, très
garage.
Oui, effectivement, peut-être que c'est ça. Mais moi, je dirais que dans les contraintes justement, à l'époque le punk, la contrainte c'était que les musiciens avaient des talents musicaux assez limités, peut-être des instruments qui n'étaient pas tout à fait parfaits là, selon les normes de l'époque. Et puis, ils ont réussi à créer quelque chose à partir de ça, avec ces contraintes-là. Alors, peut-être que, justement, en s'imposant les contraintes d'une vieille console, ça permet de dépasser ça et puis d'essayer de créer quelque chose de nouveau.
Oui, tout à fait. Ben, sans connaissance musicale, puis avec une espèce d'urgence,
oui.
Puis avec des mélodies rapides.
Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Exactement. L'espèce de fureur de vouloir faire quelque chose avec les moyens du bord. Et puis, ça finit par créer des petits miracles. Là.
Ça a créé des miracles, mais aussi ça a créé une scène, une nouvelle scène qui s'est développée un petit peu avec des labels, puis des sous-genres qui sont en train d'apparaître. Moi, je pense que c'est vraiment une espèce de culture des jeux vidéo en général. Puis, c'est vraiment c'est associé à ça aussi. Parce que c'est sûr, on peut faire de la musique avec... par exemple des Commodore 64 qui sont revenus à la mode, mm-hmm. ou même avec son Game Boy, parce qu'il existe aussi des logiciels, des fichiers de logiciels qui nous permettent de jouer, puis de faire de la musique avec des Game Boy. Puis tout ça, c'est un nouveau milieu, un nouveau microcosme qui s'est développé, puis ça, c'est vraiment c'est super intéressant, en fait.
Mm-hmm. Si tu mets la pièce 7 qui est sur le disque, parce que moi, ce qui est difficile à démystifier, tu parlais des gens qui ont de la difficulté. Écoutez, ma sœur, en particulier, quand j'écoute de la musique comme ça, trouve ça détestable, parce que c'est rapide, parce que c'est la musique, elle a l'impression que je joue à un jeu vidéo, mais je joue pas à un jeu vidéo.
OK.
Mais en Amérique du Nord, qui est peut-être moins connu, ici, ce qu'on écoute, c'est l'introduction de Final Fantasy VI, donc Hyper Mario 94 au Super Nintendo.
Ouais, quand même, là, c'est.
Mais donc, lorsqu'on entend présentement, c'est la version orchestrale.
Oh, ok.
Chacune des trames sonores de Final Fantasy était refaite par l'orchestre symphonique, donc au Japon. Puis c'est des disques qui vendent bien, qui se retrouvent sur les charts, qui se retrouvent à travers les Britney Spears.
Ah, ouais, ils font des spectacles.
Font des spectacles symphoniques. Il y en a plusieurs qui sont avec le Boston Pop. L'orchestre à Boston qui ont été déménagés aux États-Unis un peu. Okay. Mais la plupart se retrouvent comme en... Chacun des Final Fantasy, à partir de Final Fantasy VII, ont eu des chansons thèmes.
Oui, ben, sont imprégnés dans la culture japonaise.
Oui, ça fait. Mais des chansons, ils font des chansons thèmes avec des chanteuses pop de l'instant au Japon qui se retrouvent sur les palmarès avec
les
chansons de jeux vidéo.
Ok, carrément, là, on n'est pas encore rendu là ici, là, mais
non, mais c'est en écoutant une musique comme ça, puis c'est où est-ce qu'on voit la beauté de la composition d'une pièce comme ça, c'est une pièce qui est sur une console 16 bits, mais on voit là, ça me touche, moi j'écoute ça à la radio, là, puis...
C'est quoi qu'on est en train d'écouter là en ce moment?
C'était l'introduction de Final Fantasy VI. Donc, le troisième épisode.
C'est sûr que quand tu prends un orchestre symphonique, d'un seul coup, hein, ça prend une autre dimension. C'est pas
pourtant, c'est la même mélodie, c'est la même orchestration, c'est exactement les mêmes instruments, mais qui sont émulés pour une console, mais de version orchestrale, donc je pense que ça l'ouvre un peu.
Ah oui, tout à fait. Dis-moi, Sam, est-ce que toi, tu es un joueur toi-même?
Oui. Oui. Oui, tout à fait.
Joueur de jeux vidéo, est-ce que tu joues juste à des jeux vidéo ou tu joues à d'autres types de jeux?
J'ai quand même peu le temps. J'ai vendu à l'époque mon PlayStation 2 pour un Game Boy parce que je travaillais de nuit. Mais surtout les jeux, j'ai devant moi des jeux PC, surtout les jeux console. À partir après tout, l'histoire des jeux vidéo date quand même de 30 années, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Hein. Je veux dire, contrairement à la musique, il y a des milliers d'années de musique, 100 ans de cinéma.
Ouais.
Mais donc, oui, tout à fait. Je pense que je lis plus sur les jeux vidéo que j'en joue.
Mais sauf que tu l'utilises pas du tout dans la musique de Les Bro Woven.
Non, c'est, mais je pense que subtilement, je veux dire, avec la pièce qu'on a écoutée tantôt, il y a quelques références, mais je pense que ce qui est arrivé avec l'avènement du CD dans les années 90, donc avec des licences sur des chansons, donc il n'y a aucune limite maintenant sur la musique d'un jeu.
Mais pourquoi tu l'utilises pas pour Les Bro Woven? Est-ce que c'est pas du tout le style ou la ligne de conduite que vous avez choisi?
Non, pas du tout, mais comme tu parles tantôt... ce qui arrive, la musique 8-bit avait ses limites. Maintenant, avec une musique CD, donc il y a des artistes connus, il y a des groupes qui sont mandatés de faire de la trame sonore de jeux vidéo. Il y avait Splinter Cell.
En parlant de ça, d'ailleurs, est-ce que vous êtes proposé pour des jeux? Est-ce que vous êtes allé vous proposer pour Binox ou pour Ubisoft?
Non, pas encore.
Ce sera pas une mauvaise
idée. Mais souvent, les chansons dans les groupes rock maintenant, les chansons sont en licence. Et EA Sports souvent prend les groupes canadiens qui sont basés à Vancouver, prend les groupes canadiens pour mettre dans la trame sonore des jeux vidéo NHL ou sinon Madden.
Dis-moi, on va juste te remercier d'abord d'être venu. Mais peut-être avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous glisser un ou deux mots du prochain album que tu vas faire avec Les Bro Woven, qui devrait sortir très très bientôt, d'après ce que j'ai pu comprendre.
En avril, donc, avec le label. Si vous voulez avoir les informations sur Internet, c'est le www.p572.com. Donc, qui est le P572, qui est la compagnie de disques. Donc, sur laquelle on travaille. Puis, on fait un disque. Je pense qu'il y a un disque par mois qui paraît pendant 2008. En avril, c'est Les Bro Woven. Encore la mort, qui est la suite de l'excellent disque Je reviens Geneviève.
Oui.
Donc, Encore la mort, qui fait l'apologie de la mort avec The Arcade.
L'apologie de la mort, ouais. Rien de moins. Okay.
Donc, ouais, il me semble en plus que tu as un scoop pour nous. Tu nous as rapporté une pièce.
Oui. On a une primeur, hein, c'est ça? Les Bro Woven. J'avais compris.
C'est ce qu'on a écouté tantôt.
Ah, OK, c'était celle-là. OK.
C'est celle qu'on a mise, ouais. The Arcade.
C'est celle qu'on a mise.
The Arcade.
On en parlait tantôt, avant et après, c'est la pièce qu'on a écoutée tantôt.
D'accord, bon, mais c'est parfait. Moi, j'étais certain que ça faisait partie déjà de l'ancien album. Et je te remercie beaucoup, Sam Murdoch. Et puis, je t'avouerai que le sujet, de toute façon, de la musique électronique à travers les jeux vidéo, c'est de toute façon sans fin.
On pourrait revenir chaque semaine.
On pourrait revenir. Non, c'est vrai.
Est-ce qu'on finit avec une pièce ou?
On pourrait finir avec une pièce. Est-ce que tu en as une en particulier à nous conseiller pour vraiment nous faire sentir l'esprit?
C'est un conseil parce tantôt on parlait de revisites. Donc on a des revisites tantôt électroniques, de DJ. Un des jeux qui m'a marqué dans les années 90, en 98, retour inusité, c'était Metal Gear Solid. Donc
oui,
en 98. Hideo Kojima qui a fait un excellent scénario, excellent jeu, excellente musique, une production qui rivalise n'importe quelle production hollywoodienne. Donc,
puis c'est vrai qu'il y a des grands noms hein, qui se sont produits dans tous les jeux vidéo, que ce soit par exemple Amon Tobin qui avait fait
Splinter Cell,
exactement. C'est vraiment assez impressionnant tout ce qui s'est passé. Puis là, ça serait quelle plage?
Ça serait la plage la dernière du disque 12. Donc c'est drôle parce que le thème de Metal Gear Solid 3, qui était Snake Eater, donc un peu à la James Bond, une espèce de... Ça se passe dans les années 60, pendant la guerre froide. Puis, en France, il y a un orchestre de ukulélé qui s'appelle le Tangy Ukulele Orchestra. Donc, ils reprennent des thèmes de jeux vidéo ukulélé voix. Donc, eux reprennent Snake Eater, qui est un de mes coups de cœur. Donc, on voit, c'est une revisite d'une chanson de jeux vidéo, puis on la voit totalement de façon différente. Quelqu'un qui aime pas les jeux vidéo pourrait apprécier cette pièce-là, puis...
Ok, ben j'ai hâte d'entendre ça.
C'est mon coup de cœur.
Oui, on a vraiment hâte d'entendre ça. En tout cas, remercie encore Sam Murdoch.
Merci à toi.
On va rappeler que la sortie de ton prochain album avec les Les Bro Woven va avoir lieu au mois de mai, c'est ça?
Avril.
Avril, excuse-moi. Puis qu'on peut aller te rejoindre sur Internet en tapant
lesbrowoven.com.
Parfait. Et puis, on va te souhaiter une très, très bonne soirée. Puis
aussi.
On va sûrement se dire à très bientôt, j'espère, parce qu'on pourra continuer cette fameuse conversation sur les musiques de jeux vidéo. Merci encore, salut.
What a thrill. with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. No one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream. Stick it up. Someday you go through the rain, and someday you feed on a tree frog. These ordeals are trying to survive. As the day in your life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime is the way I fly to you. I'm still in a dream.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, même Frodon nous écoute Puissance Maximale, c'est toujours sur les ondes de Sekaya, et puis c'est votre magazine d'intérêt ludique. On parle de jeux et de toutes les formes de jeux possibles et imaginables. Puis comme c'est maintenant le moment que vous attendiez tous, parce qu'il s'agit du quiz, le fameux quiz de Puissance Maximale qui va vous permettre de pouvoir gagner un des très très nombreux jeux, puisque chaque semaine on fait tirer un nouveau jeu. Puis, on va évidemment envoyer immédiatement le fameux extraordinaire générique du quiz. Et c'est parti. Oui, est-ce que vous vouliez dire quelque chose, mes amis?
Bah, on voulait participer au quiz.
Parfait.
On veut essayer.
On pourrait peut-être poser une question tout à fait simple pour gagner le prochain jeu. Mais d'abord, je vais vous faire une description très succincte du jeu que nous faisons tirer aujourd'hui. Il s'agit de Qui l'eût cru ?
Ah.
Qui l'eût cru, qui est un jeu de société qui a été édité par Cranium, la fameuse anciennement entreprise canadienne, puisqu'elle a été rachetée par Hasbro, ou en tout cas elle est sur le point d'être rachetée par Hasbro, et qui est distribuée par ILO 307. Dans Qui l'eût cru, vous aurez la possibilité de découvrir qui sont vos amis, tout simplement en essayant de déterminer quels sont les adjectifs ou les types d'objets qui leur correspondent le mieux. Donc c'est vraiment le type de jeu parfait pour,
amis, hein.
Voilà, oui, pour découvrir la personnalité.
C'est bien pour les paranoïaques, hein. Qui sont mes vrais amis?
Donc si vous êtes intéressé à gagner le jeu Qui l'eût cru, eh bien, vous avez juste à téléphoner à CKIA, c'est-à-dire au 5690926, c'est ça, 5690926, ça donne vraiment l'impression que je ne connaissais pas
c'est
le numéro de téléphone.
C'est une question du quiz, là, c'est ça.
Quel est le numéro de téléphone, les gens?
Et puis, n'hésitez pas pour gagner le fameux jeu Qui l'eût cru de Cranium, distribué par ILO 307. Et évidemment, n'oubliez pas qu'il faut être membre de CKIA en bonne et due forme. Puis, juste avant de nous quitter puis de passer à une petite pause musicale, parce que tout à l'heure on va retrouver Sylvie Tap, notre très fameuse chroniqueuse des jeux PC. Eh bien, on va attendre votre coup de téléphone. À tout de suite.
democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already all? Some are murder. Some of them are ledger. Some are murder. Some are ledger.
Et oui, toujours sur les ondes de CKIA, vous êtes avec l'émission Puissance Maximale. Et puis, on vient de se faire surprendre une fois de plus par la musique parce que j'étais en grande conversation avec Sam Murdoch.
Ouais.
Et oui, Sam Murdoch qui est encore avec nous, mais qui ne l'est plus vraiment tout à fait. Sans transition, très rapidement, aujourd'hui, nous accueillons pour une fois par mois, comme d'habitude, notre amie Sylvie Tapp. Sylvie qui est notre chroniqueuse de jeux PC. Que s'est-il passé dans le monde merveilleux des jeux PC, Sylvie, s'il te plaît, éclaire-nous. On n'en peut plus de le
Sébastien,
savoir.
Sébastien, il y a une erreur. Cette semaine, je ne vous parle pas des jeux PC.
Ah, c'est pas vrai?
Non, il ne se passe rien dans le jeu PC depuis les fêtes. Donc, je vous ai fait la revue 2007, mes prévisions 2008. Qu'est-ce que j'attends? Mais il ne se passe comme vraiment pas grand-chose.
Tu veux dire que c'est très calme?
C'était très tranquille. Puis, il y a quand même des grands noms qui s'en viennent, mais qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. Bon, depuis Crysis, on attend. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne parler aux gens qui connaissent un peu ou qui ne connaissent pas ou qui voudraient en savoir un peu plus du fameux événement, le E3. En fait, le E3, là, qui se passe chaque année, le Electronic Entertainment Expo, qui est plus connu, bien sûr, sous le nom de E3. En fait, c'est le plus grand salon international du jeu vidéo et des loisirs interactifs, mondialement parlant, là. Alors, ça existe depuis maintenant plus de 10 ans. C'est l'événement qui est, comme je disais, le plus important dans l'industrie du jeu vidéo, définitivement. Ça dure chaque année 3 jours, débutant le mercredi, et ça, il n'y a pas à déroger, c'est toujours la même chose. Ça a commencé quand? La première année, c'était en 1995. Le E3 a été créé par le Digital Software Association, qui est maintenant devenu le Entertainment Software Association. Donc, c'est quand même un organisme assez important qui travaille avec le gouvernement à tous les niveaux là, pour faire en sorte que tout se passe bien puis que législativement et, politiquement parlant, tout se passe bien dans le monde du jeu vidéo. On espère qu'ils ne feront pas de grève eux autres aussi. Donc, cette première année-là, en 1995, ça a eu lieu au Los Angeles Convention Center. Et puis, c'est la plupart du temps là où ça a eu lieu. Mais ce que je propose, c'est de regarder depuis 1995, chaque année, très brièvement, les points forts qui sont sortis. Donc, en 1996, c'est Nintendo qui a volé la vedette cette année-là. Puis, ils ont même engagé le Cirque du Soleil pour le spectacle pré-E3, rien de moins.
À l'époque où ils étaient encore accessibles.
Oui,
c'est ça. Parce que Cirque du Soleil, c'est quand ça a commencé, 88, 89? Alors, déjà en 95, ils faisaient le spectacle pour Nintendo, 96.
Oui, okay. pour l'organisme, le Electronic Entertainment Expo, mais c'est Sony qui a payé les frais, Nintendo qui a payé les frais finalement. En 97, voilà que cette année-là, on déménage à Atlanta. Ils prétendaient qu'il manquait d'espace au LA Convention Center. C'est là où on y dévoile le premier Half-Life et Unreal, qui sont devenus des références incontournables dans le monde du first-person shooter, particulièrement dans le monde du PC. En 98, l'événement est rendu tellement grand qu'on a dénombré 70 000 visiteurs. 70 000, c'est peu dire.
Est-ce que c'était ouvert au
public?
Qui, là,
ben,
au public, là, ouais.
On s'entend que, je veux dire, ça coûte quand même assez cher, puis comme c'est sous forme aussi. Je ne sais pas si dans ces années-là, ça se faisait, mais je sais que par la suite, il y a des gens qui pouvaient gagner là, des concours pour pouvoir y aller exceptionnellement. Donc, j'imagine que c'était tout ce beau monde-là. Et le titre qui a volé la vedette cette année-là, c'est le très attendu Legend of Zelda, Ocarina of Time, pour Nintendo 64. Mm-hmm. Et bien évidemment, quand je vous donne l'information, au E3, c'est toujours comme ce qui s'en vient. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a été disponible à partir de là, mais c'est toujours des primeurs dans le jeu vidéo. Mm-hmm. Alors, en 99, retour au LA Convention Center, où il a lieu depuis. Sauf 2007, on y revient. Cette année-là, les visiteurs ont eu droit à une prestation de David Bowie, puis même à des spectacles de lutte, là, comme entertainment. Là.
Avec Est-ce David que David Bowie faisait de la lutte?
J'ose espérer que c'était pas en même temps. Là, parce que...
ben, on sait qu'il a fait toutes sortes de choses pendant sa carrière, alors je serais même pas étonné.
Wow, mais ouais, moi, je t'avouerais qu'il s'est jamais entraîné pour la lutte, ça se voit. Là. Il a un petit corps tout frêle.
Mon imagination ça, me là, permet ouais. de ne pas l'imaginer sur un ring de lutte. En fait, cette année-là, on y annonce l'arrivée imminente sur le marché de la station Dreamcast de Sega et de la Sony PlayStation 2. En 2000, Microsoft y participe pour la première fois. C'est là qu'il annonce la venue de sa Xbox qui s'en vient. On annonce à ce moment-là également l'apparition du GameCube qui devrait sortir en 2001, c'est-à-dire l'année suivante. Les titres qui ont volé la vedette cette année-là, c'est une démo de Metal Gear Solid 2, ainsi qu'un embryon de ce que deviendrait le très populaire Halo de Microsoft. Mm. En 2001, ben, il y a rien qu'une chose que j'ai trouvée qui ressortait vraiment, c'est le Game Boy qui apparaît.
Le Game Boy Advance, c'est bien ça?
Ouais. Oui.
Okay.
En 2002, donc c'est le lancement du Xbox Live, donc la première console qui permettait de jouer online. Mm-hmm. Ensuite, côté jeu, Nintendo révèle cette année-là sa plus impressionnante liste de produits avec Mario Sunshine, Metroid Prime, Zelda The Wind Waker, tous étaient prévus pour être lancés successivement sur GameCube, ainsi que les jeux prévus sur Game Boy Advance des séries Zelda et Kirby. Et puis sur PC, ben, cette année-là, on retrouve la démo de Doom 3. En 2003, c'est la PlayStation portable, enfin le handheld, traduis par portable, qui est annoncé.
PSP, c'est ça.
Exact. Et côté jeu, Half-Life 2 prend la tête des nouveautés PC cette année-là. Et puis Resident Evil pour GameCube, Metal Gear Solid 3 pour la PS2 et le tout nouveau Prince of Persia qui a fait ensuite des ravages. Et surtout cette année-là, lors de la présentation, parce que c'était quand même une nouvelle façon de présenter les jeux multiniveaux, tout ça, ça a été très, très apprécié. En 2004, donc, c'est l'annonce du portable de Nintendo, le DS. Les titres de jeux qui ont marqué cette année-là, on retrouve Halo 2, bien sûr, qui a dominé de beaucoup le présentoir de Microsoft. Mm-hmm. Blizzard, a révélé World of Warcraft pour la première fois. Et God of War a volé la vedette pour la PlayStation de Sony. Maintenant, en 2005, c'est le dévoilement de la PlayStation 3 et de la toute nouvelle technologie, la Revolution de Nintendo, qui va devenir la Wii par la suite.
Oui, Revolution, on se souvient du nom, exact. C'est vrai.
Et ainsi que la Xbox 360 qui est annoncée cette année-là. Donc, c'était une année charnière là, dans le monde de la console. Dans le monde du jeu PC, le hit, ça a été le démo du Elder Scrolls 4 Oblivion, qui, bien sûr, est devenu un incontournable dans le jeu PC. Ce titre-là, d'ailleurs, avait été amené la toute première fois en 1998, donc ça a pris quand même quelque temps avant qu'il soit mis au point et mis sur le marché. En 2006, tout le show cette année-là a été monté autour des lancements imminents des deux nouvelles consoles, la Wii et la PS3, PlayStation 3. Côté jeu, la Xbox 360, excusez, ça se bouscule à la sortie, je m'en excuse, a révélé la plus impressionnante ligne de produits à venir, dont Gears of War. Et c'est la Wii qui, bien sûr, a attiré une immense foule. On parle de files d'attente de 4h30 là, pour aller faire des essayer.
Ouais, tout le monde voulait participer à la révolution.
Tout le monde voulait l'essayer. Et ils ont eu l'occasion de l'essayer sur des jeux tels que The Legend of Zelda, Twilight Princess et Metroid Prime 3. Donc, les titres PC qui ont été dévoilés en 2006, Mass Effect, Enemy Territory, Quake Wars qui s'en venait, Crysis, BioShock, Assassin's Creed. Donc, c'était tout le grand cru 2006 qui est sorti en 2007 finalement. Par la suite, à partir de cette année-là, le nom de l'événement a été modifié pour devenir le E3 Media and Business Summit. Donc, on voit vers où ça s'en va. On a décidé qu'à partir de là, ce serait seulement sur invitation, seulement pour les journalistes, seulement pour les professionnels du milieu, histoire peut-être de réduire un peu les frais en même temps. Donc,
alors nous, on ne peut pas y aller.
Ouais. Ouais, on pourrait y aller, ben oui.
On peut
Ben, puissance peut-être. Maximale, ben oui.
Oui, bien sûr.
Ah oui, on va essayer d'avoir le Média Québec. Ouais.
Donc, en 2007, cependant, ça a été retourné à Santa Monica. Il a eu lieu du 11 au 13 juillet. Mm-hmm. Et c'est là, comme je disais, que c'est devenu sur invitation seulement.
En même temps, ça ouvre un créneau de faire un salon qui serait ouvert à tous. Tu sais, faire une espèce de e-tree, mais qui n'est pas seulement destiné à l'industrie.
Ça peut être quelqu'un qui va prendre... C'est ça,
qui va prendre la relève. Prendre la relève et ça pourrait devenir gargantuesque. Là, ça
c'est vraiment... sûr. Parce que je pense que c'est un petit peu ça, ils ont été victimes un peu de leur succès mm-hmm. aussi, parce que quand tu commences à recevoir des foules de 70 à 100 000 personnes,
c'est difficile à gérer.
Oui, c'est difficile à gérer, ça implique beaucoup de frais.
Tout à fait.
Donc, pour terminer, bien sûr, suite à tous ces changements-là, en 2007, il y a eu, les sites étaient beaucoup plus éloignés, donc l'éloignement des différents sites, l'absence de véritables halls d'exposition et un choix de date pour le moins surprenant font partie des critiques qui ont été les plus souvent formulées par rapport au E3 de 2007.
C'est quoi d'ailleurs la date?
En 2007, c'était du 11 au 13 juillet.
Oui.
Mais habituellement, dans les années passées, ça se tenait beaucoup aux alentours du mois de mai.
OK. Est-ce que cette année, c'est encore annoncé pour le mois de mai?
Pour 2008, ça va être encore au mois de juillet.
Ah.
Oui. L'Entertainment Software Association a pris quand même connaissance de ces critiques-là et puis semble vouloir en tirer des leçons. Puis cette année, ben, ça prête encore une fois tout chambouler pour renouer avec le succès des années passées. Donc en 2008, l'événement revient à Los Angeles du 15 au 17 juillet pour profiter de plus d'espace, mais ça va avoir quand même désormais plus les allures d'un salon de jeux vidéo conventionnel. Il sera pas un aussi gros événement qu'avant. Ça va demeurer que ça va se dérouler dans plusieurs hôtels de la ville. Enfin, probablement, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont à mettre au point à ce niveau-là. Mais ce sera toujours sur invitation pour les journalistes puis les professionnels du secteur.
Ah, c'est nous, ça. Il faudrait faire des démarches pour pouvoir y aller. Là, une équipe de trois comme ça, là, ce serait fantastique.
Depuis le temps,
logé, payé, nourri, on ne sait pas.
Dis-moi, Sylvie, est-ce qu'ils ont déjà annoncé plus ou moins ce qui allait être présenté, étant donné que c'est l'avenir, autant qu'on soit tout de suite au courant de l'avenir?
Ben, c'est habituellement le grand... Le but de cet événement-là, c'est justement la surprise, c'est de sortir des trucs qu'on ne sait pas trop ce qui s'en vient, le punch. Je pense pas qu'ils vont s'amuser à nous le dire à l'avance. Là. Mm-hmm. Mais bon, sur le site officiel, peut-être que quelques mois, semaines, jours avant, il y a possibilité d'avoir quelques petits indices.
Et est-ce que c'est comme les Oscars, par exemple? Est-ce qu'on a droit au tapis rouge? Est-ce qu'on voit les superstars du monde de vidéo défiler à travers la foule en extase?
Écoute, j'ai jamais vraiment personnellement vu téléviser cet événement-là, télévisé ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il doit y avoir quand même... Par les années passées, bon, depuis 2007, depuis le changement de formule, peut-être un peu moins, mais par les années passées, à mon avis, il y avait quand même assez de fanfares,
des tambours.
Est-ce qu'il y a
des remises de prix? Peut-être qu'avec une remise de prix, c'est un spectacle télévisé, il y a tellement de chaînes, il pourrait en avoir une qui serait intéressée à diffuser ça. On pourrait créer un star system.
C'est sûr qu'on en voit toujours par la suite, là, après que l'événement a eu lieu, on les retrouve dans les grosses émissions de jeux et tout ça, et d'électronique. Bon, il y a toujours des présentations qui sont faites, mais live, sur le coup, moi, personnellement, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Mais je sais, par exemple, qu'à chaque année, après l'événement, il y a une liste des awards, si on veut, qui sont comme identifiés, là, des meilleurs jeux qui ont été présentés, les meilleures consoles, peu importe, et qui est disponible, mais c'est pas fait sous forme de vidéo, E3 Video Awards. Là,
moi, je suis sûr que d'ici très, très peu de temps, on aura des paparazzi derrière chacun des concepteurs de jeux vidéo.
On va pouvoir voir les concepteurs sur la plage en maillot,
Exactement.
Je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment.
ça dépend. Il y en a certaines, par exemple, à Montréal, qui sont très agréables.
Oui, c'est vrai. Ça dépend lesquelles, évidemment.
Et oui. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie, pour ces éclaircissements sur E3, si je l'ai bien compris, est resté comme une espèce de phare à l'intérieur de toute l'histoire des jeux vidéo. Il a toujours été un petit peu en avance et puis il a toujours annoncé ce qui se passait dans le futur.
Oui, et pour les grands noms du vidéo aussi, c'est comme Sony, Microsoft, tout le monde se bat pour avoir un petit kiosque au E3 à chaque année.
Puis on se retrouve tout de suite après cette petite pause et puis ce sera déjà la fin de l'émission Puissance Maximale. Il est déjà 5h52. Une heure, ça passe tellement vite quand on est en train de parler de jeu.
Oui, effectivement. C'est comme y jouer, hein? Le temps se raccourcit.
Tout à fait.
C'est comme pendant le temps des fêtes quand on est en train de déballer les jeux, hein? C'est pareil. On se retrouve tout de suite après ça. Salut.
Thank you. at me in the mirror, my analogy, and yes, it seems that I have a way that is something strange. You know, I never thought I was a beauty queen, and I never felt like a part of the scene. But when I look at you and you look at me,
c'est déjà la fin de l'émission Puissance Maximale, votre émission de jeu, de ludique. Une émission ludique, tout simplement, sur les ondes de Sekaya. Vous n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Internet, soit à l'adresse www.puissancemaximale.com. Et maintenant, nous sommes en pop-up, ce qui fait que vous allez pouvoir nous écouter sur Internet aussi en vous baladant à travers le net, comme vous voudrez, en allant à l'adresse petitpeuple.fr. Surtout, n'hésitez pas à les regarder, c'est très intéressant. Ils ont aussi de l'actualité. Pour ce qui est de l'agenda de la semaine, au niveau ludique à Québec, vous pouvez toujours aller ce soir même à 19h à l'Ostradamus, où il y a toute une gang de personnes qui va vous accueillir avec plaisir pour jouer à des jeux de plateau. Sinon, demain, mardi, eh bien, vers 19h, vous pouvez aller à Laga pour jouer au jeu de Go, le fameux jeu chinois où on comprend absolument rien, mais c'est tellement beau. Hein?
On comprend, il paraît que c'est un jeu d'une profondeur extrême, très riche en stratégies diverses.
En tout cas, certainement que très très bientôt, on va essayer d'apprendre les règles pour avoir l'air un petit peu moins fou. Ouais. Puis pour ce qui est du reste de l'agenda, cette fin de semaine, samedi, eh bien, nous organisons, Puissance Maximale organise une journée de jeu complète à Lévis. Vous aurez des plus amples détails. En fait, c'est comme un rave. On ne connaît pas tout à fait exactement le lieu avant d'aller regarder sur le site internet.
Excellente analogie.
D'aller découvrir exactement l'endroit et puis l'heure. Ce qu'on vous promet pendant cette journée-là, eh bien, c'est de découvrir Rock Band sur grand écran, ce qui est quand même très sympathique.
Oui, on a plusieurs instruments, si je ne me trompe pas. Hein.
Oui, batterie, guitare et micro, ce qui va vous permettre de pouvoir devenir une star le temps d'une toune devant une foule en délire.
Oui, parce qu'on a souvent essayé avec une guitare ou avec un instrument, mais on les a tous, alors...
Puis vous pourrez aussi évidemment jouer à des nouveautés de jeux de plateau ainsi que faire des initiations de jeux de rôle ou de jeux de figurines. On va vous quitter là-dessus, on va vous souhaiter une très très bonne semaine à tous et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Surtout restez sur les ondes de CKIA puisque Homologue s'en vient dans quelques secondes et on vous souhaite une très bonne semaine. Salut à tous, bye bye.
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's the ending!
C'est la plage et la forêt infinie. la Pampa et l'Amazone, le Portugal et l'Afrique, Juan Gilberto et Marisa Monte. Le Brésil, c'est pas rien. On en parle et on l'écoute à Samba etc. chaque jeudi 22h, en reprise le vendredi 15h. À CKIA 88,3.
Dans une atmosphère musicale électronique, l'objectif de l'émission Transcendance est de présenter, avec un esprit à la fois ouvert et critique, différents regards et points de vue sur l'être humain, la société, les institutions. Transcendance, un rendez-vous philosophique ficelé par Éric Talbot, les lundis 22h sur les ondes de CKIA 88,3 FM.